Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. On va commencer le travail de cette journée d'études qui a pour titre Régime de circulation et construction du savoir, 16e-18e siècle. C'est une journée qui va se faire en deux langues, en anglais et en français. Bien sûr, quand il y a une intervention dans une langue, j'imagine que normalement on va aussi poursuivre la discussion dans la même langue. Mais s'il y a des gens qui ont envie de passer, de poser des questions dans l'autre langue, je suis là pour assurer un peu la traduction. Il y a un certain nombre de personnes ici, même parmi les intervenants, qui sont plus ou moins bilingues, donc il n'y a pas de problème normalement pour ça. L'idée de cette journée m'est venue en effet dans des discussions que j'ai tenues avec un ami et collègue Kapil Raj de l'École des études en sciences sociales. Ça fait assez longtemps qu'on travaille ensemble dans plusieurs cadres et aussi on a participé dans un séminaire en commun jadis quand j'étais à l'École des études en sciences sociales. Et notre idée, c'était de profiter de plusieurs conjonctures. Il y a tout d'abord, bien sûr, ce cadre de l'histoire globale qui nous est donné par cette chaire au Collège de France. Il y a aussi un intérêt croissant pour ce qui est des conversations, disons, entre histoire globale et histoire des sciences. Et entre autres, le fait que Simon Schaffer, ici présent, a prononcé la conférence Marc Bloch l'année dernière, c'était aussi une occasion de voir un peu le renouveau de cet entrée, et même dans le cadre de cette institution-ci. Et finalement, aussi, il faut que je mentionne quand même que ça se place dans une série d'événements qui ont lieu, entre autres, parce que le mois de mai, Carlo Ginzburg est invité au Collège de France pour prononcer quatre conférences entre le 4 et le 26 mai. On va aussi se situer un peu par rapport à cet événement. Avant de passer à mes remarques à titre d'introduction, je vais juste dire deux mots en anglais. Welcome to all of you who are here and who will speak in English. As I told the participants at the outset when I sent out my circular email, we'll try to run this as a bilingual event. So those of you who will speak in English will of course speak in English. And the discussion, we hope, will also be largely conducted in English after those papers. If there's a need to pass from one language to another between the audience and those who are asking questions, well, I'm there to help you, and so indeed are several people here who are more or less perfectly bilingual, so there shouldn't hopefully be too much of a problem with that. Not to repeat exactly what I said just now in French, this is a sort of an event which is linked to the the sort of multi-year chair that I hold in the Collège de France right now. So it's linked to obviously global history and the interest in global history in Paris and to connected history to some extent, and also to the history of science, which is something which has been long practiced in Paris in the Centre Coiré and elsewhere, but perhaps not always in relation to global history. So this is an occasion to profit from a potential synergy between these two areas, and it so happens also that we have a series of other events which we hope this will also be conceived of in relation to, notably, the series of lectures that Carlo Ginzburg will deliver here in the Collège de France in the month of May. Alors, donc, je passe à mes remarques d'introduction portant donc sur la question des régimes de circulation et histoire globale. Bien sûr, il y a plusieurs façons d'aborder cette question et on verra ça aussi dans le cadre des communications d'aujourd'hui. J'aimerais commencer en signalant un certain nombre de ces discussions qu'on a eues par le passé. Bien sûr, il y avait déjà, il y a fort longtemps, tout au long du XXe siècle, un cadre qui était donné pour le XVIe et le XVIIe siècle, qui était le cadre de ce qu'on appelait sans trop d'état d'âme, l'histoire de l'expansion européenne. Il y avait des centres dans le monde qui portaient plus ou moins ce titre. Il y avait des séries de livres, par exemple en anglais, une série très connue, célèbre, dirigée par John Plumb, qui portait exactement sur cette question-là, où il y a eu un certain nombre de contributions tout à fait notables, par exemple par l'historien anglais Charles Boxer, ou par la suite par l'historien américain Holden Faber, et ainsi de suite. Donc ça, c'était un cadre où la conception qu'on avait d'une histoire globale était essentiellement une histoire impériale et parfois une histoire trans-impériale, c'est-à-dire en mettant ensemble plusieurs empires, des empires en concurrence, comme bien sûr le portugais et l'espagnol, ou plus tard le néerlandais et l'empire britannique, par exemple. Et même parfois dans des cadres plus ambitieux, en prenant en compte, par exemple, l'Empire russe, qui n'était pas tant un empire maritime, mais néanmoins qui avait aussi participé dans ce cadre de la concurrence entre empires au XVIe et XVIIe siècle. Puis, il était aussi vrai que même en réfléchissant sur l'histoire à plus long terme de l'économie politique, si on prend ce livre, Rester célèbre, là vous voyez donc la traduction française de 1781, mais aussi l'original publié, comme il s'avère, l'année fatidique de 1776. Alors là, dans ce livre sur la richesse des nations, Adam Smith, penseur, philosophe écossais, en fait, a toute une série de réflexions portant sur cette question de l'histoire globale. Il y a cette phrase devenue presque une espèce de cliché chez Smith, dans cette célèbre phrase où il dit que les deux événements les plus importants de l'histoire de l'humanité sont la découverte de la route du Cap et la découverte de l'Amérique par les Européens. Donc, cette phrase qui est citée maintes fois, mais parfois aussi sans prêter assez d'attention aux phrases et aux pages qui vont suivre cette phrase, dans lesquelles, en fait, Smith va essayer quand même de faire un exercice, un peu d'encadrer ce problème de ces deux routes de commerce, en disant que en réalité, les choses n'étaient pas aussi simples que ça. Les choses n'étaient pas aussi simples que ça, ni d'un point de vue d'histoire économique, ni, disons, d'un point de vue moral. Parce qu'il a très bien reconnu que si c'était de l'importance, ce n'était pas forcément des événements positifs pour tout le monde. Et il le reconnaît, par exemple, volontiers que pour les habitants de l'Amérique, ce qui a suivi la découverte était plus ou moins un désastre, au moins pour certaines communautés. Et puis, il y a aussi ce développement très célèbre chez Smith où il nous explique qu'en réalité, les pouvoirs et les nations européennes n'ont pas su profiter vraiment de ces découvertes pendant quelques siècles. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas capables de comprendre que la meilleure façon d'utiliser et d'aborder ces découvertes était en passant par un régime de libre commerce, ce qu'ils étaient incapables de faire. Et donc là, ils lancent ces célèbres attaques contre à la fois le mercantilisme et aussi le régime des compagnies de commerce. Il est très, très connu pour ses critiques, on le sait, par exemple, de la compagnie anglaise, de la compagnie britannique et son comportement, même avant la conquête de Bengale, pour ne pas parler de la situation après 1757. Voilà, donc pour Smith, il y a déjà une certaine présentation des choses, d'un certain type d'histoire globale, où en fait, c'est une histoire où il y a des pouvoirs et des tendances opposées qui sont dans une espèce de lutte constante. Et en fait, même s'il reste plutôt optimiste pour les résultats de cette bataille, il est pas clair que jusqu'en 1776, c'est les forces, disons, du commerce et de l'ouverture qui ont gagné contre les forces de la fermeture et, disons, les forces qui sont représentées à la fois par des États et par d'autres institutions semi-étatiques comme, comme les compagnies de commerce. C'est une réflexion donc qui nous aide aussi pour une autre raison sur laquelle je vais revenir vers la fin de mes remarques. Mais il faut dire que dans les, disons, 15-20 dernières années, nous sommes revenus sur ces questions, bien sûr, posées par Smith, mais aussi par pas mal de, d'autres écrivains dans le cadre de l'économie politique du XVIIIe siècle. Là, je vous donne donc trois exemples, des exemples assez différents, dans lesquels plusieurs personnes dans cette salle ont participé d'une façon ou d'une autre. Donc là, vous aviez le livre qu'on avait fait à la suite d'un séminaire portant sur les questions de société et circulation, centré sur l'Asie du Sud, mais en fin de compte, posant des questions plus larges et notamment en mettant en avant cette idée que pour comprendre l'histoire de plusieurs continents et aussi des espaces plus limités, c'était utile de penser en termes pas seulement des communautés fixes, mais aussi des systèmes de circulation et même ce qu'on appelait donc dans l'introduction de ce livre des régimes de circulation, des régimes donc qui sont aussi conçus en termes de cadre politique, de cadre institutionnel et autres. Donc ça, c'est quelque chose, comme je viens de vous dire, qui n'est pas conçu à l'échelle globale, mais qui a des, disons, des concepts qui se prêtent enfin à être utilisés dans des cadres de, assez différents et des échelles spatiales assez, assez différentes. Par la suite, donc, on a eu toujours à Paris ce livre de Grudzinski, Serge Grudzinski, qui est, elle, il aussi est en quelque sorte le résultat de discussions qu'on a eues dans des séminaires portant, par exemple, sur le rapport entre l'histoire de l'Amérique et l'histoire de l'Asie. Et là, dans ce cadre, en fait, Grudzinski va essayer de redéfinir et retravailler une histoire impériale. Donc, vous voyez que dans le sous-titre, il parle de l'histoire d'une mondialisation, mais pour lui, en fin de compte, cette mondialisation, c'est une mondialisation ibérique. Et le gros de ce, la discussion de ce, dans ce livre, c'est sur le rapport entre Empire espagnol et Empire portugais. Mais là encore, c'est une tentative de retravailler, refaire un peu ce, cette vieille histoire de l'expansion européenne, mais en recentrant un peu le regard, car, comme c'est, vous le savez sans doute, Serge Grudzinski, étant spécialiste de l'histoire mexicaine et de l'Amérique latine, a voulu aussi un peu sortir de ce, ce regard centré sur, sur l'Europe. Et finalement, le troisième exemple que j'ai pris ici, c'est un exemple d'un livre qui a été co-dirigé, entre autres, par Simon Schaffer, Kapil Raj et Lisa Roberts et James Del Burgo. Et là, c'est plutôt une question de ce qu'on appelait parfois dans le langage des études en français des passeurs culturels. Mais ici, donc, c'est ce qu'on appelle les go-betweens. Donc, pour passer à une description, disons, plus macroscopique, à la question des agents que font justement le passage et qui sont là parfois pour faciliter les choses, mais il faut dire aussi parfois, et là on revient un peu à Adam Smith, il faut aussi dire qu'il y a des go-between qui sont en fin de compte des empêcheurs, des gens qui sont là en fait pour créer des problèmes pour la, la circulation des choses. Et en fait, c'est aussi cet aspect-là qu'il faut prendre en compte. Si on pense justement, par exemple, aux employés de la compagnie hollandaise ou la compagnie anglaise, souvent, ils ne facilitent pas du tout ni la circulation des commodités, ni la circulation des savoirs. Alors, donc, trois exemples, trois projets qui sont en quelque sorte en conversation, entre autres parce que parfois on retrouve les mêmes participants, ou plus ou moins, mais aussi des projets qui ont chacun son intégrité et des idées un peu différentes. Alors, donc, vous savez encore qu'il y a ces coupages disciplinaires qui font que quand on parle justement de ces questions de circulation, ces questions sont prises d'une façon assez différente par des sous-disciplines. Là, vous aviez une espèce de map monde qui trace les voies de circulation. Bien sûr, là, on retrouve un peu le plan, soi-disant, des empires en expansion. Mais pour nous, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, c'est à partir des constructions comme ça que, depuis très longtemps, depuis au moins les années 20, mais certainement dans les 20 ou 25 dernières années, on a beaucoup parlé, par exemple, de la question de la circulation de l'argent. Donc, les historiens qui font l'histoire monétaire sont au centre d'une série de discussions. Et là, vous voyez, en quelque sorte, le même argent qui circule pour produire des reales de A8, puis les roupies mogoles et les thaïs, la production chinoise qui est quand même assez importante à l'époque, car la Chine, finalement, est le pays le plus important pour la consommation mondiale de l'argent au XVIe, XVIIe siècle. Et ce n'est pas seulement l'argent américain, on le sait maintenant, mais c'est aussi la production très importante d'argent japonais dans les années, disons, entre 1600 et 1650. Alors, pour la conception des choses chez les historiens de l'argent et la circulation de l'argent. Je vais me pencher un peu sur ça parce que souvent on a utilisé l'argent comme une espèce, pas seulement comme objet, mais comme métaphore. Donc souvent on a aussi pensé qu'à partir de l'argent, on pouvait penser toutes sortes de processus de circulation. Mais je vous donne quelques raisons pour lesquelles, en fait, même l'histoire de l'argent n'est pas si simple que ça. Vous savez que quand on a commencé les discussions à l'échelle globale sur l'argent, et là on revient par exemple aux études des gens comme Earl Hamilton dans l'époque entre les deux guerres, il y avait une idée que le processus de circulation de l'argent au XVIe, XVIIe siècle, c'était un processus essentiellement d'homogénéisation. C'est-à-dire, il y avait, bien sûr, l'argent avait ses origines, et il y avait donc des flux, et il y avait donc des points de départ, des points d'arrivée, mais l'idée était que partout, il y avait de l'inflation qui se produisait, et donc qu'à ce niveau-là, on pouvait mettre en pied d'égalité, par exemple, l'Espagne, ou le Portugal, la France, l'Empire ottoman, la Chine, partout, il y avait les mêmes processus. Il y avait donc, plus ou moins, suivant la théorie quantitative de l'argent, on pouvait arriver plus ou moins à décrire un processus qui était à peu près égal partout. Mais ce qu'on sait depuis au moins 30 ans maintenant, c'est que c'est tout sauf la vérité. Parce que, en réalité, le processus de circulation d'argent, déjà, on est dans un cadre qui est plus compliqué, car Hamilton, par exemple, ne prenait pas en compte l'argent japonais. Donc déjà, il n'y a pas un centre, il y a déjà deux centres, au moins, pour ne pas parler d'autres producteurs mineurs, mais aussi les effets sont tout à fait différents dans des régions différentes du monde. C'est-à-dire, si on regarde l'inflation soi-disant ottomane, en réalité, ça n'a pas grand-chose à voir ni avec le timing, ni avec les processus au niveau de l'histoire sociale même qu'on trouve en Espagne. Donc, cette célèbre phrase de Pierre Villard, l'âge de Don Quixote, qui représentait en quelque sorte une Espagne qui était dans une confusion, justement, qui avait comme base l'histoire monétaire. C'est pas du tout comme ça qu'il faut comprendre ce qui s'est passé, par exemple, avec les janissaires au début du XVIIe siècle, car, en fait, l'inflation ottomane est essentiellement basée sur les changements dans le système monétaire même et pas forcément dans le simple processus de l'arrivée de l'argent venant d'ailleurs. Donc, vous voyez que, déjà, avec un point de départ soi-disant aussi simple que l'argent, ça fonctionne pas très bien en tant que métaphore, en tout cas, mais ça nous donne déjà une idée de la complexité des choses. Comme vous savez encore, et hélas, on va certainement parler de ça au long de cette journée, l'autre point de départ pour les discussions sur ces circulations de 16e, 17e et 18e, c'est la main-d'œuvre. Ça, c'est une autre grande question, et surtout les discussions sur l'esclavage. Et notamment, il y a eu des efforts pour essayer, dans le cadre de l'Atlantique, de quantifier la circulation des esclaves. Il y a le projet de David Altus et autres pour faire un recensement donc, de cette circulation. Mais avec le passage du temps, on s'est rendu compte que même si c'était en fin de compte possible de rendre dans toute sa complexité cette circulation qui n'est pas du tout dans les mêmes cadres ou les mêmes circuits que l'histoire de l'argent que je viens de décrire, il y avait aussi une faiblesse assez énorme. C'est-à-dire, en se concentrant sur l'Atlantique, on a oublié que la circulation de la main-d'œuvre et même des esclaves était aussi importante dans d'autres cadres. Donc, on ne pouvait certainement pas oublier qu'il y avait aussi, par exemple, une circulation dans le cadre de l'océan Indien. Et cette carte-là, en fait, est assez défectueuse parce que ici, on a l'impression, en regardant cette carte, que tout se passe à partir de l'Afrique, tandis qu'en réalité, il y avait aussi pas mal de commerce d'esclaves, par exemple, à partir de l'Asie du Sud-Est, à partir de la Birmanie, à partir du Bengale. Donc, si on a envie de se rendre compte du monde de circulation de la main-d'œuvre dans le cadre de l'océan Indien, en fait, il faut imaginer une carte beaucoup plus remplie et aussi avec des rapports qui sont beaucoup plus multidirectionnels, en fin de compte, et pas seulement une question où on a l'impression qu'il y a de la main-d'œuvre au départ de l'Afrique dans les deux sens, qui est un peu l'impression qu'on a à partir de ces cartes-là. Voilà donc un autre cadre qu'on va discuter sans doute, parce que ce sont des circulations, mais avec ces circulations, il y a aussi des savoirs qui vont passer. Il y a des savoirs écrits, mais aussi des savoirs oraux. On a beaucoup parlé de ça, par exemple, dans le cadre de l'histoire brésilienne. L'arrivée des esclaves de l'Afrique, ça veut dire aussi qu'il y a des technologies quotidiennes qui vont passer justement avec ces gens de l'Afrique au Brésil. On peut dire la même chose sur d'autres types de circulation. Par exemple, dans les derniers temps, on commence tout juste à se rendre compte de l'importance de l'arrivée, pas en masse, mais quand même en nombre appréciable d'Africains en Inde, par exemple au 15e, 16e siècle. Et ces gens-là aussi ont des technologies, surtout des technologies militaires, qui s'avèrent assez importantes dans ce cadre en particulier. Et bien sûr, on ne peut pas oublier le cadre donc, qui nous est donné par cette fameuse formule de l'échange colombien. Donc, phrase de Alfred Crosby, mais qui nous parle justement de ces thèmes qu'on va aussi traiter aujourd'hui, la circulation des plantes, par exemple, mais il ne faut pas oublier encore une fois que ce n'est pas dans un sens que ça se fait. Souvent, on a fait comme si c'est surtout dans le cadre de l'exportation de l'Amérique vers l'Ancien Monde que ça se fait, tandis qu'on verra que c'est beaucoup plus compliqué que ça par rapport à la situation du 16e, 17e. Il y a aussi, et bon, si on est à Paris, et on ne peut quand même pas oublier l'histoire des microbes. Alors donc, il y a aussi cette histoire de circulation de microbes qui avait été discutée, entre autres, assez longuement par Emmanuel Levallois-Dury dans un certain nombre de ses travaux. Donc, on a tout ce cadre qui nous est donné, à la fois, là, vous voyez encore, dans une carte où on a l'impression que la plupart de ces choses se passe dans le cadre de l'Atlantique, mais en réalité, c'est plus compliqué que ça, car il y a des échanges qui se font par le Pacifique. Et j'ai même montré dans un certain nombre de mes cours de l'année dernière que, par exemple, déjà au début du XVIIe siècle, on voit les Khoikhoi, les Khoisan en Afrique du Sud qui sont en train d'utiliser le tabac. Donc, il est arrivé assez vite là. On sait que le tabac, par exemple, est arrivé en Chine au début du XVIIe et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'il y a toute cette série d'échanges qu'il faut, donc prendre en compte. Donc, si on réfléchit sur cette question des savoirs, il y a différents types de savoirs qu'il faut prendre en compte, des savoirs qui passent donc par l'écrit, des savoirs qui passent donc par la voie de l'oralité, beaucoup plus difficile à saisir. Dans le cadre de l'écrit, bien sûr, on sait maintenant qu'il faut bien sûr donner l'importance qu'on doit à l'imprimerie et aux livres imprimés, mais il ne faut pas oublier que le 16e, 17e, le 18e siècle, c'est encore un monde de manuscrits, et surtout parce qu'il y a des parties du monde, par exemple l'Asie du Sud, où l'imprimerie n'avait pas beaucoup d'importance avant 1750. Il y a eu quelques livres imprimés au 16e siècle, mais l'essentiel du savoir écrit passait par d'autres voies, et c'est la même chose aussi pour l'Empire ottoman, même si on a commencé avec ce célèbre cas de Muteferika dans les années 1730 d'imprimer quelques livres. Mais il y a aussi ces autres types de savoir, donc des réflexions, même beaucoup avant Adam Smith, sur la question des implications presque à l'échelle mondiale par les participants dans ce processus. Quelques-uns très inquiets, quelques-uns aussi très optimistes. Je vous fais remarquer ce livre que pour moi reste très important, un peu oublié malheureusement, il faut dire, le livre de Richard Grove sur Green Imperialism, car là, dans ce livre, il reprend un peu un certain nombre des idées d'Alfred Crosby, même dans le titre on voit des reflets, mais ce qui est surtout intéressant pour nous, c'est comment Richard Grove a essayé de combiner une histoire donc écologique, une histoire sociale, une histoire des idées, en prenant en particulier le cas, par exemple, des penseurs physiocrates au XVIIIe siècle qui avaient des réflexions sur comment ces processus de circulation avaient eu des effets souvent très néfastes sur des écologies, en prenant le cas d'un certain nombre d'îles où il a essayé de nous présenter les difficultés qui étaient le résultat justement de ces processus de circulation. Donc le savoir là allait un peu à l'encontre des nouvelles circonstances, surtout du XVIIe et XVIIIe siècle. Donc pour terminer, je vais revenir à un personnage qui me fait remonter en fait au tout début de ma carrière, quand j'étais un peu indécis entre les études d'économie politique et d'histoire économique. Personnage qui, dans les derniers temps, a eu un renouveau d'intérêt, qui est Turgot. Turgot qui était ministre, mais Turgot qui était aussi quelqu'un qui avait pas mal réfléchi justement sur la question, comme dit le titre de son texte le plus célèbre, sur la formation et la distribution des richesses. Turgot, qui était un peu à mi-chemin, mais d'une façon assez compliquée, on le sait, entre les physiocrates, j'imagine qu'avec Simon Schaeffer, on va peut-être revenir un peu à cette question, et Smith, c'est-à-dire entre ce monde centré sur l'agriculture. Mais rappelons-nous que les physiocrates, pour eux aussi, la circulation était une métaphore essentielle. Mais là, avec Turgot, on se rend compte qu'il a une façon beaucoup plus équilibrée. Et par exemple, dans ce petit chapitre de la récapitulation des 5 différentes manières d'employer les capitaux, on voit qu'il essaie de faire une espèce d'exercice d'équilibre entre ces 5 manières qui sont d'acheter un fonds de terre, de placer son argent dans des entreprises de culture, de placer son capital dans des entreprises d'industrie ou de fabrique, de le placer dans les entreprises de commerce et de le prêter. à ceux qui en ont besoin. Et pourquoi penser à Turgot? Parce que depuis un certain temps, on sait que Turgot n'était pas seulement donc, le ministre qui a repensé la question des prix qui était impliqué dans la guerre des farines, etc., mais aussi quelqu'un qui était, par le biais de sa famille, très impliqué dans les questions de l'Empire français. Son frère, on le sait, à partir des travaux notamment d'Emma Rothschild, a été gouverneur de la Guyane française. Et Emma Rothschild a même essayé de nous démontrer comme quoi, à partir de Turgot, on peut voir qu'un endroit comme Angoulême était très impliqué dans ces systèmes de circulation à l'échelle, sinon globale, au moins à l'échelle de l'Atlantique. Et en fait, comment il y avait donc des passages de la main-d'œuvre recrutée pour la colonisation, de l'argent, des capitaux, et finalement, il y a aussi eu des réflexions sur le savoir, car finalement, c'est à partir des expériences malheureuses, il faut le dire, de son frère qu'en partie Turgot a aussi construit un peu son système économique. Mais il y a aussi une petite chose sur Turgot qu'il ne faut pas oublier, et c'est que si on regarde le texte de Turgot, on nous dit toujours, comme présentation de ce texte, que ce texte a été conçu pour enseigner deux Chinois qui étaient de passage à Paris. Et que et c'était en dialoguant avec ces deux Chinois que Turgot est arrivé à construire ce texte. Alors, à première vue, on dirait que ça, c'est une espèce de topos, hein, parce qu'il y a les lettres persanes, il y a les Chinois qui sont parfois présents chez Voltaire même. Mais en réalité, des gens, et notamment il y a fort longtemps déjà, Henri Cordier avait pas seulement souligné que ces Chinois existaient bel et bien, mais il a même pu identifier ces Chinois, hein, donc qui sont identifiés dans le texte de Turgot, et etc., comme M. Ko et M. Yang, deux jeunes Chinois de Pékin. Mais en réalité, donc, Cordier a trouvé qu'ils étaient justement deux Chinois appartenant à des familles chrétiennes. Louis Ko, fils de Joseph Ko et Cécile Chow, et Étienne Yang, fils d'André Yang et de Catherine Lee. Et en réalité, ces gens sont passés par Paris. Ils ont eu des conversations avec Turgot. Donc, parfois, il vaut mieux pas être trop sceptique et prendre les choses comme ils sont. Voilà, donc il y a un proverbe turc, m'a-t-on dit, qui dit « si vous avez des doutes, il faut aller chercher la sagesse en Chine ». Manifestement, c'était un peu le cas, et donc vous voyez que même si on n'a pas de contribution aujourd'hui portant directement sur la Chine est au centre quand même d'un certain nombre de discussions, soit la Chine, ici à droite, recevant le savoir jésuite comme la carte de Giulio Alleni, soit les Chinois en donnant leur savoir comme on voit ici à gauche avec le livre récent de Timothy Brook. Mais là encore, même en reprenant ces deux images, on voit un peu la complexité des choses, car si le savoir de Alleni est passé chez les Chinois, en fait, le savoir dans la carte de Chine est resté bloqué car il n'y avait personne pendant des siècles pour lire la carte qui avait été amenée à l'usage de M. Selden. Donc c'est à la fois avec ces processus donc, de circulation, mais aussi de circulation empêchée qu'on va peut-être démarrer notre discussion d'aujourd'hui.